Vous écoutez
RMC.
Parlons du PSG et accueillons, bien sûr, puisque cet homme est désormais associé au Paris Saint-Germain. Malgré lui, peut-être.
Malgré lui, ouais,
Polo Breitner est avec nous dans l'after. Salut, Polo.
Bonsoir, Nico. Bonsoir, tout le
monde. Ça dérange
pas,
Polo. Hein, d'être à ce point affilié au PSG. C'est bon.
Ça me rappelle un film de Brian De Palma, Sort Lequel? De sang. Sort de sang. Le premier qui m'a vraiment fait
vu.
Connaître.
Je l'ai pas vu, ce film, tiens.
C'est pas si mal que ça. La fin est un peu ratée.
Tout n'est pas bon chez De Palma dans les années 80, tu sais.
Ah, bah. On dit ça. C'est difficile d'être un de ce, ah oui. de défendre Hitchcock, de vouloir systématiquement se référer à la référence ultime.
Alfred. Polo, tu restes avec nous, tu peux réagir à tout moment, bien sûr. On va commencer à débriefer avant ton Bayern qui a été tenu en échec avec une sale après-midi, un bon partout. Bayern. Avant le Bern face à Ton Union voilà. Berlin.
Voilà.
Je préfère le dire comme ça. Parlons du PSG, messieurs, victoire 4-1. Alors, après-midi parfaite. Pour le Paris Saint-Germain. Ouais, franchement, Fred, tu gagnes 4-1, pas de blessé.
Je l'ai mis dans mon point, c'est qu'il y a eu une première mi-temps exceptionnelle. Tu mènes 3-0, donc une grosse gestion en seconde. Et ça, il n'y a pas de blessé. Un Paris sérieux, collectif aussi, il faut le souligner, que Paris a été hyper collectif. Et puis quand Mbappé il joue dans ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est un attaquant de rupture comme ça, il est impressionnant.
Ouais, c'est clair.
Franchement, Paris, il l'avait dit en plus. Hein. La meilleure façon de préparer le match retour, c'est de gagner à Strasbourg. C'est d'être bon à Strasbourg et ils l'ont fait. Donc maintenant, voilà, place au repos.
Il y a quand même un joueur qui fait la différence. Et alors, je sais que je pense que c'est une de mes marottes. Mais voilà, quand tout le monde disait, oh, Verratti va pas être là contre le Bayern, moi, le joueur, l'absence qui m'inquiétait plus, c'était celle de Leandro Paredes. Parce que Paredes, c'est pas forcément le joueur le plus saillant, le plus coruscant. C'est vrai qu'on
parle à Marco Verratti. Stop, arrêtez tout, j'en peux plus, il fait exprès.
Non.
Mais c'est un bingo qui fait, je sais pas.
Stop, ça suffit. On me laisse terminer parce que c'est important.
Saillant, coruscant.
C'est important ce que je veux dire pour le match retour. Parce que Paredes, il a une qualité, c'est qu'il est capable d'équilibrer tout le bloc équipe. Et quand tu dis que le Paris Saint-Germain a joué de manière plus collective, il y est quand même pour quelque chose. Parce que dans ses premières relances, il cherche toujours la simplicité. Et c'est ce qui manque à ce Paris Saint-Germain-là, qu'il y a des joueurs qui veulent tricoter, garder le ballon. Paredes, c'est toujours dans la simplicité. Et il a une chose en plus qui va être très utile pour le match retour, parce que Polo est là, donc on est obligé d'en parler. Pour le match retour contre le Bayern, c'est que c'est quand même le seul joueur au milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui peut se comporter comme une petite garce. Et dans un match où ça va être tendu, c'est hyper important.
Mais attention, tu peux te comporter comme une garce. Comme
mais il le fait bien.
Ouais, mais justement, il faut faire attention de ne pas.
Il n'a pas toujours bien fait, parce qu'il a pris des rouges, le garçon.
Son petit carton rouge, bêtement, et laisser son équipe à 10.
Badier est avec nous, supporter du Paris Saint-Germain. Salut, Badier.
Oui, bonsoir, les gars.
Salut, Badier. Heureux de t'accueillir dans l'after.
Bonsoir.
Bon, comment t'as vécu ton après-midi, toi?
Ah, bah, nickel.
Bon, sur les deux oreilles, tranquille.
Et je t'appelais Badier, mais c'est pas dit.
Un petit peu quand même au début, petite frayeur, puis après, tranquille, oui.
Tranquille, bon, Mbappé est quand même dans une bonne période, hein, t'en parlais toi aussi.
Mbappé, c'est 15 buts sur les 11 derniers matchs du PSG.
Je me demandais, est-ce qu'il a entendu, ça y est, qu'il fallait qu'il joue dans...
Non.
Ben, je sais pas.
C'est pas ça le problème. Le problème de Mbappé, quand il y a eu...
Est-ce que Neymar n'est pas là?
Non, quand il y a eu sa période où il était pas bien, on l'avait dit plusieurs fois, c'est qu'il était pas bien physiquement, tout simplement. Qu'il était dans le trou, et quand il était pas bien physiquement, il cherchait un petit peu à forcer son jeu, et que forcément, ça n'allait pas. Là, t'as l'impression qu'il est en pleine forme, en pleine position de ses moyens.
Ils ont changé ce qu'il sait faire. Ouais, mais ils ont changé. Paris, je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Comment c'est ça, l'auditeur? Badi.
Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Paris a totalement changé le jeu aussi. C'est-à-dire que sur les récupérations du ballon, on cherche très très rapidement la profondeur, que ce soit avec Mbappé ou même Keane, hein, quand il a joué devant, c'était exactement pareil. Et ces attaquants de rupture, à chaque fois, ils se procurent beaucoup d'occasions. Donc forcément, ils ont le talent, donc ça va rentrer. Hein.
Non mais c'est clair, on a un nouvel entraîneur, on attendait de lui de mettre un petit peu du nouveau dans le jeu de l'équipe, et on commence à voir un peu les résultats, c'est-à-dire que il commence à les joueurs commencent à le comprendre, ils commencent à s'imprégner de son jeu, et ce n'est qu'un début. Mais c'est clair que là, on voit plus d'engagement des joueurs dans les deux phases, c'est-à-dire avec ballon, sans ballon.
Exactement. Ouais.
Et si vous parlez d'Mbappé, excusez-moi de un petit peu tempérer, mais chaque athlète, quel que soit c'est caractéristique. Il y a des hauts et des bas, il faut l'accepter. C'est après au préparateur physique, à l'entraîneur et si un préparateur mental de les conditionner pour être au top là où il faut l'être, ouais. C'est-à-dire dans les matchs décisifs. Et on voit qu'Mbappé, il revient de beaucoup de frustration, c'est-à-dire le Covid, la blessure, etc. Il faut lui donner le temps, comment dire, de revenir à son top. Et heureusement qu'on a ce top là, là maintenant. Hein, donc vraiment, on a besoin de.
Ah, mais c'est les deux derniers mois, avril-mai. Ah ouais. Ça y est, c'est là où tout est décisif. Donc ouais. C'est là, vaut mieux être en forme à ce moment-là.
Et puis les mecs sont programmés pour ces mois-là aussi. Quand tu joues dans les gros clubs européens. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de supporters parisiens. Je sais pas si t'en fais partie, Badi, qui se demandaient pendant le match. Mais à quel moment Pochettino il va sortir Mbappé à trois jours et demi du Bayern? Parce que je pense que coach Courbis devait être fou là-dessus.
Ouais. Non, mais c'est quand même. Je veux pas dire que c'est drôle, mais c'est quand même étonnant. Que en ayant autant d'experts du foot, du sport, parler comme ça d'un match ou d'un entraîneur. Mbappé, au fait, que ce soit lui ou un autre joueur, il faut savoir d'abord quel est leur cheminement psychologique. Si le gars, il a besoin de jouer, et ça, je l'avais dit à Adrien quand j'avais appelé cet après-midi, avant même que le dise Pochettino dans son interview. S'il a besoin de jouer, si son physique et son psychique a besoin qu'il joue chaque jour pour se sentir bien, il faut le laisser jouer. Il faut pas le stopper.
Mais tu sais ce qu'on va faire, Badi ? On va écouter Pochettino dont tu mentionnes l'interview tout de suite. Écoutez.
La meilleure préparation pour Kylian, c'est de jouer. C'est un joueur très mature, très intelligent, qui sait comment aborder ses matchs. Kylian veut jouer. Il faut donner de la valeur à cela. Un champion du monde qui veut jouer tous les matchs, c'est valorisant. Il montre clairement l'engagement qu'il a avec le club et le foot français.
C'est vrai que c'est un débat très franco-français en Espagne, Messi jouait tous ses matchs, même s'il n'est pas bon, trois jours avant un match important en Ligue des Champions.
Même quand il revient de blessure, trois jours avant un match de Ligue des Champions, il joue tout le temps.
T'es d'accord, toi, avec ça, quoi?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, en plus, il est jeune, il a le temps de récupérer. Demain, il va rien faire. Après-demain, il va juste faire un petit peu de tactique d'avant-match.
À son âge, les gars.
Et puis, c'est bon. Non, mais je veux dire, oui, il a le droit de jouer tous ses matchs. Hein.
À son âge, il n'y a même pas de débat à avoir.
On peut quand même le comparer à son idole, qui est Cristiano Ronaldo.
Bien sûr.
À certains moments, il voulait rater aucune minute d'aucun match. Même quand il sortait à la 88e, comme on a sorti aujourd'hui Mbappé, il n'était pas content. Il voulait finir ses matchs. Mais après.
Il y a toujours des occasions en fin de match, c'est pour ça. Il y a toujours un but à mettre.
Pardon ?
Non, je disais qu'il y a toujours des occasions et un but à mettre en fin de match. C'est pour ça qu'ils veulent rester les champions comme ça.
Oui, non, mais je veux dire, mais lui, son besoin, c'est-à-dire ce qui le motive. Pour jouer, ce qui le motive, sa raison d'être sur le terrain, c'est ça, c'est de jouer de bout en bout. Il veut être là, présent tout le temps. Bah, il faut le laisser. Bon, c'est pas une question de qui domine, est-ce que c'est l'entraîneur ou est-ce que c'est le joueur. L'entraîneur, lui, il a comme mission de gérer son effectif et de bien le gérer. Ouais. S'il frustre un joueur, comme ça, juste pour lui dire non, mais t'as pas besoin d'être là, bah, il va le perdre.
Non, mais tu connais l'histoire. S'il se pète à la 45e, tout le monde va lui tomber dessus à Pochettino et lui dire.
Mais,
bon
oui,
Dieu.
Mais lui, alors Pochettino, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit gérer l'interne ou l'externe? Mais qu'il lui tombe dessus. Quand on fait du haut niveau, on apprend à gérer ça. Sa responsabilité, c'est de gérer la pression externe et de la laisser à l'extérieur. Ne pas la faire rentrer dans l'équipe.
Management.
Voilà, et de management, exactement. Maintenant, s'ils se blessent, ben tant pis. Ils ont étudié les risques, ils savent ce qu'ils font, et c'est là où il faut savoir qu'il y a derrière Mbappé, il y a un préparateur physique, il y a un corps médical, il y a un entraîneur, il y a peut-être un coach mental, j'en sais rien. Moi, j'en suis un coach mental, et c'est pour ça que je vous parle de tout ça.
J'ai bien compris, mais je posais la question. J'entends le préparateur mental depuis 5 minutes.
Oui, c'est très important aujourd'hui. On a négligé ça beaucoup, 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 et quand on entend quelqu'un parler de ces aspects-là, on a tendance à minimiser. Mais non, l'être humain, il est fait de raisonnement psychologique, etc. Et tout ce que vous dites.
Et d'émotion, et de sensibilité, tout ça, t'as raison.
Et tout ça, c'est à prendre en compte. Sinon, on rate tout.
Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous dans le football aujourd'hui. Et oui, préparateur mental.
Exactement.
Et dans le sport de niveau en général.
On a de plus en plus de footballeurs qui viennent se former. Excusez-moi d'utiliser, on va dire, de parler de cette structure, les nouvelles formations, le LFP, la Barça Hub qui propose ça. Et pourquoi? Parce que on a remarqué que ça apporte beaucoup.
Énormément.
Ça permet de garder les gens, les athlètes à très haut niveau. Et c'est pas négligeable de parler de tout ça, en fait.
Et c'est pour les garder au haut niveau, en fait, qu'on fait appel à un préparateur mental. C'est pas parce que t'as des difficultés, tu marques pas de but, t'arrives pas à faire des passes.
Ça veut dire, c'est pas ça. Tu viens toucher le point le plus sensible.
C'est pas ça, un préparateur mental. C'est pour rester vraiment dans le haut niveau.
Absolument.
Et avoir les outils nécessaires pour le rester. C'est tout.
T'as raison.
Enfin, c'est tout. Absolument. C'est beaucoup, même.
D'avoir les mécanismes psychologiques pour se dire, voilà, là, ça va, comment maintenir.
À une certaine époque, il y a eu la psychologie tout court, on va dire banale, civile de tout le monde, et qui a été aussi prise comme étant négative, c'est-à-dire quand on se fait suivre, on est faible, on n'a pas. Eh ben, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans le sport et depuis un certain moment quand même. C'est-à-dire quand on a ramené la psychologie vers le sport et c'était la psychologie classique, on la voyait déjà comme quelque chose de très faible et les entraîneurs refusaient ça. Aujourd'hui, ça a évolué. Il y a des théories, il y a des gens qui font des recherches, etc. Et c'est superbement appliqué parce que ceux qui entraînent, ceux qui coachent, ils le vivent au quotidien et ils le voient. C'est-à-dire quand on leur apporte une théorie, une méthode, un outil, comme tu viens de le dire, ils disent « Ah, c'est vrai, je l'ai vécu, ça. »
Et oui, bien sûr.
En tant qu'athlète ou avec un athlète, ou j'ai vu quelqu'un le faire.
Mais le foot a du retard encore, Badi, je pense, par rapport à d'autres disciplines. Le foot a du retard par rapport...
Parce que
notamment aux disciplines individuelles.
Parce que l'entraîneur, il veut tellement tout gérer qu'il n'accepte pas d'avoir mettre personne dans le staff.
Qu'est-ce qu'un préparateur mental ou un psy va mettre dans la tête de mes joueurs? C'est moi de contrôler tout ça. Merci, Badi.
Merci, Badi. En tout cas, c'était très bon.
C'est très intéressant. On garde ton numéro, un jour, il faudra qu'on s'intéresse à ça, à l'aspect mental.
Avec plaisir.
Des sportifs de très haut niveau et des footballeurs en particulier dans l'after. Lui, il a un homme mental, c'est Paulo Breitner. Paulo, on est d'accord, le débat, toi, jouer
pas. Mais j'ai beaucoup aimé le débat parce que je pense que je suis un peu de l'ancienne école.
Paulo, c'est pour ça que j'ai rien dit.
J'ai vraiment du mal avec la préparation mentale.
Mais comment
et donc
tu peux pas reconnaître les effets positifs d'un.
Je n'ai pas dit ça. Je pense que c'est générationnel aussi.
Exactement.
Et Badi l'a très bien dit que c'était vu d'une façon négative. Et moi, je suis toujours resté dans cette façon négative, c'est-à-dire que j'arrive pas à bien comprendre le pourquoi du comment. Donc
Polo, je suis d'accord avec toi,
c'est juste que j'ai dû atteindre ma limite de, enfin mon niveau d'incompétence à ce niveau-là. Par exemple, au Bayern, ils ont quasiment tous un coach mental, mais même individuellement. C'est-à-dire que le Bayern les laisse faire. C'est
bien
une
sûr.
Façon. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bon,
mais j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs.
C'est aussi générationnel.
Voilà. Non, mais là, en fait,
oui, mais Polo, ça, ok, c'est pas un argument.
C'est l'argument. Il est là. C'est générationnel. Mais Polo, faut aller plus loin. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense surtout que ça met en lumière une chose, c'est que oui, c'est générationnel et que la génération actuelle, donc de joueurs de foot, de footballeurs, de sportifs actuels, cette génération, elle est beaucoup plus faible mentalement que
mais n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'entends?
C'est mon avis, tu sors,
mais tu vois, ça c'est pas
genre. Si tu veux, c'est le genre de débat de libération, quoi, tu vois, ça me saoule.
Mais c'est pas ça, Paul, c'est pas vrai.
Alors, t'es un homme, t'es une femme, bah non, et puis après, t'as une génération de 30% des gens, ils savent plus ce qu'ils sont. Moi, c'est des trucs qui me rendent complètement fou.
Il y a énormément de joueurs, même il y a 10, 15, 20 ans, qui avaient aussi un préparateur mental, sauf qu'on le savait pas et que ça s'ébrutait pas. Mais il y a énormément de grands champions qui avaient un préparateur mental.
Merci.
Je dis pas que c'est mal, j'ai du mal à percevoir
le truc. J'ai pas l'argument de Jonathan que les plus jeunes sont faibles aujourd'hui, non.
J'ai pas dit faible,
j'ai dit plus faible. T'as dit plus faible.
Mais attends,
parce que j'ai pas dit faible, j'ai dit plus faible.
Évidemment. Moi, c'est juste que.
Évidemment.
On commence à comprendre les bénéfices d'une
préparation mentale. Tu leur mets un petit coup de cul, ils partent à 10 mètres maintenant.
Oh là là, pas toi, Polo, c'est pas vrai. Bon,
mais si, les Bayern, jeunes, c'est insupportable. Remettez le service militaire, voyons.
Peut-être que ton Bayern va prendre un petit coup de pied au cul aussi mardi soir et partir avec des champions.
Mais c'est pas mon Bayern.
Non, ton Bayern, le Bayern Munich. Un partout aujourd'hui face à l'Union de Berlin. Compliqué, hein. Ça l'après-midi, tenu en échec, inefficace malgré les occasions et des nouveaux pépins physiques. Commençons par les pépins physiques, hein, par la chronique santé de Dr. Breitner. Coman sorti à la mi-temps, grave, pas grave? Polo? On a perdu Polo.
On a perdu Polo. Mais alors, on va répondre
pas grave,
à sa place.
Je peux répondre. Pas grave. A priori, ils l'ont préservé. Ils avaient une frayeur, mais ça devrait aller.
Mais c'est quand même, ça aurait pu être très grave s'il avait été justement blessé et indisponible pour le Paris Saint-Germain. Parce que vu la liste de blessés qui s'annonce côté Bayern Munich, je te dis que c'est fou comme le vent a tourné. Quand on se remet un petit peu avant cette confrontation avec le Paris Saint-Germain, on se disait, oh là là, bon, bah oui, il va leur manquer Lewandowski. Mais côté parisien, il y a une avalanche de blessures. Donc, du coup, le Bayern était grandement favori. Là, c'est fou comment, après une défaite et des blessures plus tard, tu te dis que le vent a totalement tourné et que Paris maintenant est le grandissime favori. Et c'est pas juste en prenant en compte le score du match aller.
Polo, tu es avec nous?
Pardon, ça a sauté.
C'est pas grave.
Oui, alors en fait, on est dans la continuité de ce qui s'est passé, de ce qu'on discutait hier soir, c'est-à-dire que toutes les informations qui arrivent en provenance du Bayern sont négatives, y compris le match de cet après-midi, globalement dominé évidemment par le Bayern Munich, avec une équipe où on a fait tourner puisqu'on avait des jeunes que Hansi Flick a mis sur le terrain, et à la fin. Bah, ça fait 1-1, alors que le Bayern aurait dû remporter cette rencontre. Et c'est, en fait, paradoxalement, c'est que, pour la première fois, la presse allemande a parlé de cette rencontre comme d'un match après la rencontre contre le PSG et avant la prochaine rencontre contre le PSG, comme quoi le match retour contre le PSG devient maintenant super, super important. Et c'est très intéressant cette rencontre parce que ce match, en fait, le Bayern, quand t'es le Bayern, tu le remportes 99% du temps. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que ça veut pas. Ils se prennent encore un but dans les 5 dernières minutes. Un but d'ailleurs qui est très critiqué parce que, la touche est pas correcte. Mais si tu veux, ça envoie encore une information comme quoi il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, t'as eu des joueurs supposés blessés. En fait, c'est beaucoup moins grave qu'on le dit. Kingsley Coman a reçu un coup. Boateng avait un petit problème au genou, mais Hansi Flick a été extrêmement positif, mais tu sens en ce moment le stress qu'il y a. Pourquoi ? Parce qu'avant la rencontre, Hansi Flick a été interrogé suite à ses déclarations, évidemment, comme quoi il avait un effectif de moins bonne qualité que l'année dernière, et il refuse maintenant de répondre aux journalistes, notamment de Sky, qui évidemment présentait la journée, et dit mais alors est-ce que vous allez continuer l'année prochaine après vos contrats ? Il répond question suivante. Mais alors est-ce que vous pensez que ça va bien se passer entre Salihamidžić et vous, donc le directeur sportif ? Il répond question suivante. Et ouais. Le problème c'est que même les joueurs le disent maintenant. Après la rencontre, Thomas Müller, évidemment, a été interviewé et on lui pose la question. Alors, est-ce que ce qui se passe en ce moment avec Hansi Flick, pour le groupe, c'est compliqué. Thomas Müller copie son coach. Il dit question suivante.
Ouais. C'est fou comment le vent a tourné en l'espace de 15 jours. Quoi, hein.
Et c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, il n'y a pas de. Alors, il y a même, par rapport à ce qu'on disait hier soir où Hansi Flick était plus optimiste pour Goretzka que pour Hernandez, c'est le contraire maintenant. Il pense qu'Hernandez sera rétabli pour le match de mardi, mais pour Goretzka, ils attendent le feu vert du staff médical et c'est pas assuré du tout. Or, dans le 11 de départ du Bayern, évidemment, Goretzka est beaucoup plus important que Lucas Hernandez.
Il est sur la sellette, Hansi Flick,
C'est pas ça. Alors, j'ai fait une longue interview aujourd'hui sur un média, celui qui sortira mardi d'ailleurs, si je dis pas de
bêtises. Dis-le.
Sur France Info, sur qu'est-ce qui se passe, cette guerre des chefs au Bayern, etc. Et c'est très, très compliqué. Déjà, parce que le club bavarois ne vit que des conflits depuis quasiment sa création. Donc c'est quelque chose qui. Ce sont des égos surdimensionnés, c'est un club Hollywood. comme le. Oui, mais à la rigueur, quand j'ai entendu aujourd'hui que c'est le nouveau FC Hollywood, j'ai rigolé. On est loin de ce que c'était que le FC Hollywood. Et en fait, ce qu'il faut jamais oublier une chose, c'est pas de savoir si Hansi Flick ou Salihamidžić a raison ou tort, parce que dans cette histoire, Hansi Flick, t'as l'impression que c'est la pauvre victime d'un système, il a pas ce qu'il faut, etc. Mais Hansi Flick, quand on voit toutes ses déclarations depuis des mois, il a jamais dit qu'il allait rester des années et des années au Bayern Munich. Et lui, l'Euro 2021, le successeur de Yogi Löw, je pense que ça l'intéresse beaucoup. Mais ce qui est important, c'est que dans le décision du Bayern Munich, ce sont ce qu'on appelle les éléphants qui décident. Ils prennent des bonnes ou des mauvaises décisions, mais c'est eux qui décident. C'est Rummenigge, c'est Uli Hoeness, et c'est aujourd'hui Herbert Reiner, le nouveau patron de l'association. Donc, et qui est très proche d'Uli Hoeness d'ailleurs, c'est l'ancien patron d'Adidas. Et c'est ces trois-là qui décident sur ce qui se passe. Ils peuvent prendre des bonnes, des mauvaises décisions, ils peuvent, personne ne l'a dit, mais on l'oublie souvent, mais Nagelsmann, et c'est un bavarois, ne l'oubliez jamais, ça c'est des choses très importantes quand tu es dans cette dans cette région. Et donc, si Hansi Flick, par exemple, on décide d'ouvrir la porte pour qu'il puisse partir, c'est évidemment pour récupérer Nagelsmann. Le cas Boateng est fabuleux. C'est pas parce qu'on considère que Boateng est cramé ou pas cramé. C'est parce que le Bayern Munich, comme beaucoup de clubs européens, doit faire des économies sur la masse salariale. Et le salaire de Boateng, on considère, puisqu'on va récupérer ou pas Mécano, on considère que c'est, qu'on va pouvoir économiser son salaire. Et donc, tout ça fait que, si tu veux, on monte ça en épingle. Le problème, c'est que ça arrive à un moment où tu perds à l'aller contre le PSG, où ça se passe mal contre l'Union de Berlin, même si c'est une équipe difficile à jouer. Il y a cette série de blessés, alors qui sera là, qui sera pas là, etc. Et donc, c'est un grand classique des égos du Bayern Munich qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y en a un qui s'exprime d'ailleurs extrêmement peu, c'est celui qui va remplacer Rummenigge, c'est Oliver Kahn, parce que je peux vous assurer que c'est pas un rigolo, ce gars-là. Oliver Kahn, j'adorais le joueur. Mais tu sais qu'il en a joué. Son autobiographie est extraordinaire. Toute sa vie, il l'explique très bien dans son autobiographie qui s'appelle Ich. Moi, tu vois, c'est dans ta question des égos, tu vois, c'est très important. Et il fait comprendre que vous avez voulu que je sois votre animal de foire parce que mon physique, parce que ceci. Et toute ma vie, j'ai construit mon personnage pour être comme ça. Mais c'est pas quelqu'un de facile, Oliver Kahn.
Mais bien sûr.
Donc, si tu veux, les états d'âme de Flick ou de Salihamidžić, on peut critiquer Salihamidžić, hein, parce que c'est quelqu'un, ça fait 2 ans, enfin, depuis qu'il a été mis en place par Ulionès au passage, qu'on critique le directeur sportif, mais ça n'empêche pas Ulionès d'intervenir il y a un an maintenant en plein direct. Il appelle une émission de radio où des journalistes étaient en train de balancer sur Salihamidžić pour les remettre à leur place. C'est quelque chose de très très important. Dès qu'on attaque le Bayern, de toute façon il se défend, mais souvent il se défend contre les autres. Mais les crises internes, ça a toujours existé dans ce club, parce que ils sont dans la performance ultime, et dès que vous êtes un peu moins performant, vous dégagez. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre,